Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ils sont là, Stéphane Guy, Daniel Riolo, Xavier Barré, Kevin Vessière. Le bouquin de Kevin, aux éditions Max Milo d'ailleurs, il faut préciser.
Pardon ? Et par arbitre, Kevin.
Non, pas du tout. Rien à voir avec Gilles. Hein. Ça s'écrit pas pareil en plus.
Oui, c'est tout à fait. Mais on a fait souvent la remarque dans l'épisode de l'after. Ouais.
Non. Football Club Géopolitique,
oui,
tome 2.
Vous n'avez pas vu Stéphane encore. C'est vrai. Stéphane n'avait pas pu te le faire. Tu as bien remarqué que pour la première fois, depuis que tu viens, je n'ai encore rien dit là-dessus.
C'est vrai. C'est
d'habitude, c'est moi. Je ne peux pas m'en empêcher.
Juste précision, Kevin.
Je pense que l'auditeur doit se poser la question quand même.
Non, ton bouquin est aussi la suite logique d'un compte Twitter que tu animes depuis plusieurs années maintenant sur foot et géopolitique.
Oui, ça, depuis 3 ans, j'ai créé un compte Twitter qui s'appelle le FC Geopolitics. Et donc, le but, c'est d'expliquer en tout cas les relations internationales grâce au football. Et à l'issue de ces différentes analyses et ces différents threads, j'ai pu faire un premier ouvrage qui reprenait 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Et là, j'ai fait le tome 2, axé vraiment aux Coupes du Monde.
Exactement. Je vous conseille de vous abonner, hein, parce que là, vous allez découvrir plein de trucs, l'histoire de Gibraltar et du football. Enfin, il y a plein. Bon,
et le livre est formidablement pédagogique, parce que quand on ne connaît pas un chapitre, on a vraiment l'explication par A plus B.
Alors toi, tu t'es retenu le chapitre sur 78.
Bah oui, parce que moi, j'avais l'idée débile, idiote, que la Coupe du Monde au Qatar était la première Coupe du Monde où l'on tuait pour le football. Je me disais, c'est la première fois que des hommes meurent pour qu'une Coupe du Monde ait lieu. Et donc, en lisant le chapitre de votre livre sur la Coupe du Monde en Argentine, j'ai appris cette extraordinaire fait divers, mais enfin, extraordinaire non, d'une tristesse absolue. Donc ces Péruviens qui ont été donc jetés à la mer, d'avion, hein, jetés à la mer, donc des contestataires politiques péruviens qui étaient emprisonnés en Argentine. Et dans le deal, le fameux match, alors faut qu'on prenne une minute pour le raconter, mais pour se qualifier pour la finale 78 que l'Argentine organisait, donc l'Argentine doit battre le Pérou par 4 buts d'écart. L'Argentine va gagner 6-0. Tout le monde l'a toujours pensé, et ça a été plusieurs fois révélé, que
le Pérou avant n'avait pas pris plus de 2 buts dans la compétition, donc c'est pour ça que ça.
C'est une bonne sélection le Pérou.
Donc on a toujours pensé que c'était un match acheté et truqué, mais là ça va au-delà, c'est-à-dire que dans le deal, raconte le mieux, bien mieux que moi. Dans le deal, il y a donc des hommes qui ont été jetés à la mer.
Oui, c'est ça, en fait, il y avait un match, donc là effectivement pour la Coupe du Monde, on est finalement il y a 2 phases de groupe, première phase de groupe et deuxième phase de groupe, et à l'issue de cette deuxième phase de groupe finalement, c'est les premiers qui sont en finale. Donc pour l'autre groupe, c'est les Pays-Bas qui vont aller en finale. Et l'Argentine, si elle veut pas.
Il n'y avait pas de demi-finale, il faut préciser.
Il n'y avait pas de demi-finale, voilà, c'est ça. Et si l'Argentine voulait en tout cas aller à cette finale, il fallait qu'ils battent le Pérou par plus de 4 buts d'écart et dépasser le Brésil.
Parce que le Brésil avait battu 3-0 le Pérou. Mmh.
C'est ça. Et pour le coup, les matchs n'avaient pas lieu à l'époque en même temps.
C'était un avantage, l'Argentine savait ce qu'elle avait à faire.
Voilà, tout à fait. Et donc,
comme d'un fait exprès.
Et donc effectivement, il y a en étudiant un petit peu la question, ça a été révélé après. Il y a eu effectivement un deal entre les gouvernements argentins et finalement péruviens, qui étaient aussi
deux dictatures
militaires sanguinaires. Et finalement, l'Argentine fait un deal avec le Pérou. En gros, le Pérou propose d'éliminer des opposants politiques, et c'est l'Argentine qui le fait à sa place. Comme ça, le gouvernement péruvien n'est pas derrière cela. Et donc, en échange, c'est le Pérou va brader le match, et donc victoire de l'Argentine 6-0, ce qui permet à l'Argentine ensuite de disputer sa finale contre les Pays-Bas, et l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde. Et donc, ça va être une victoire certes pour l'Argentine, qui était un grand pays de football, mais qui n'avait pas encore performé en Coupe du Monde, mais surtout instrumentalisée pour légitimer la dictature militaire de Videla, qui était en place depuis seulement 2 ans.
Et Videla, qui était un dictateur, pour revenir un peu au sujet qu'on avait tout à l'heure avec Daniel. Bon, c'est une autre époque, évidemment, on est en pleine guerre froide, etc. Ce régime-là faisait partie des nombreux régimes dictatoriaux sud-américains très soutenus par les États-Unis.
Oui, ça, en fait, je l'explique aussi dans le livre, parce que je fais aussi un chapitre sur Pinochet. Là, c'est pas durant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est un match de barrage pour accéder à la Coupe du Monde. Il y a un match 74, effectivement, pour la Coupe du Monde 74. Il y a un match Chili-URSS, ce match de barrage. Et donc, finalement, c'est à cette période-là que Pinochet va prendre le pouvoir en 73. Et finalement, il va y avoir ce barrage. Donc, l'URSS ne veut pas jouer contre, finalement, le Chili, le match retour, puisque Pinochet, c'est un leader d'extrême droite qui a été en plus mis en place là par les États-Unis via l'opération Condor. Donc, tu l'expliquais, pour finalement mettre en place des régimes d'extrême droite en Amérique du Sud.
Et, c'était fait pour éviter que ces pays-là ne deviennent communistes.
Ouais, c'est ça, voilà. Et notamment le Chili avant c'était un gouvernement socialiste avec Salvatore Allende. Et donc finalement pour le match retour, maintenant le Chili est sous dictature militaire, l'URSS ne veut pas le jouer sur en territoire chilien, non. Et en plus ils ne veulent pas le jouer à l'Estadio Nacional de Santiago parce que on sait que c'est devenu un centre de torture pour le régime de Pinochet. Donc après il y a des propositions pour jouer sur terrain neutre, mais Pinochet est ferme sur la question. Il veut jouer le match au Chili et finalement ce match, l'URSS ne vient pas et donc le Chili
se qualifie,
mais il va quand même y avoir un match à l'Estadio Nacional, un match où il y aura pas d'adversaire finalement et donc ça va être passe à 10 et ils vont marquer dans un but vide. Et les joueurs chiliens,
devant
un stade plein, avec des
venus voir,
des spectateurs finalement qui ont
les
été
politiques, il y en a une tonne, hein.
Ouais. Invités par le régime.
Pour valider le forfait, il fallait qu'il y ait
ce match-là
et un but. En fait.
Donc voilà, c'est un autre élément aussi de cette finalement de ces régimes mis en place effectivement en Amérique du Sud, ces régimes dictatoriaux pour légitimer en tout cas leur pouvoir grâce au football. Et c'était aussi le cas avec l'Argentine, mais l'Argentine après finalement la dictature militaire pourra pas miser sur le
contexte géopolitique de l'époque. Faut rappeler qu'il y avait eu la révolution à Cuba quelques années auparavant, effectivement, comme le rappelait Daniel, le communisme commence à faire tache d'huile dans Amérique latine et
c'était la hantise des Américains.
Les États-Unis ne voulaient surtout pas perdre l'Amérique.
Quitte à installer puisqu'ils ne pouvaient pas installer de démocratie, à mettre en place des généraux et des dictatures pour empêcher que les communistes.
Ah, ce livre, Gilbert, il faut le lire parce que, pour évidemment tordre le cou à cette immense bêtise répétée encore par Infantino, le président de la FIFA récemment, pour expliquer le football est en dehors de rien du tout. Le football, il a les pieds, les mains, la tête, le corps dans le tonneau de la politique. Le football est de tout temps.
Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que les dernières déclarations d'Infantino, il a notamment dit que, notamment devant les dirigeants du G20, que le football c'est un outil de paix, qu'il appelait à un cessez-le-feu pour la guerre en Ukraine.
Durée de la Coupe du Monde.
Alors que finalement, à chaque fois qu'il y a une position politique à prendre, la FIFA dit que le sport est apolitique, alors que le sport est politique.
On va dire que ce qu'ils mettent en avant, je fais l'avocat du diable, c'est toujours, encore une fois, Gilbert l'a dit tout à l'heure, c'était le grand rêve de Blatter. Homme de paix. Mmh. C'est pour ça que Blatter avait œuvré, rappelez-vous, en allant à Ramallah pour organiser un match de foot entre Palestiniens et Israéliens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il rêvait tout le temps du prix Nobel de la paix. C'était la paix. C'est pour ça qu'Infantino, marchant dans ses traces, il en a eu l'opportunité là. Pendant la durée de la Coupe du Monde, trêve entre Ukraine et Russie.
Et puis avec
il y a ce
Blatter
truc
aussi,
de la FIFA, la paix, quoi.
Oui, avec aussi cette Coupe du Monde organisée entre le Japon et la Corée du Sud pour essayer de faire en sorte que les pays, ces pays qui étaient opposés finalement puissent rétablir leurs relations.
Ça a toujours été un but que la FIFA a poursuivi.
Et pour finir sur l'Argentine, rappelons quand même que depuis le stade, qui est le stade de River Plate, stade monumental, il y avait un centre de torture dans une école proche où les gens torturés, les Argentins torturés, entendaient les clameurs du stade pendant la Coupe du Monde, ce qui est quand même assez dingue.
Ça les dérangeait ou pas un peu?
Quoi?
Ça faisait du bruit, non?
Et moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est que, évidemment, vous imaginez la pression qui pesait sur les joueurs argentins, dont ils imaginent quand même, j'imagine que dans leur conscience, en tous les cas, ils ne devaient pas être forcément tous très favorables à Sergi, mais il devait y avoir aussi forcément
revue de l'After, un article sur les maudits de 78.
D'accord.
Oui, parce que figure-toi qu'en Argentine, la génération 78 vit évidemment très mal le fait d'être un peu déclassé par rapport à ceux de 86. Et en gros, les Argentins disent, ouais, mais vous l'avez gagné, bon. On peut aider quand même.
Et surtout que Passarella a toujours traîné une sorte d'ambiguïté de était-il prêt, proche du régime ou pas du régime. Et est-ce qu'on a réellement su.
Mais les mots de Menotti avant
Passarella
la finale
n'étaient pas
extraordinaires.
Les mots du sélectionneur argentin, c'est finalement de dire ne prenez pas en compte finalement les considérations politiques.
Parce que Menotti est un homme de gauche.
Jouer pour vous, et voilà. Mais après, effectivement, c'est
jouer pour le peuple.
Jouer pour le peuple, mais il ne pouvait pas finalement l'afficher publiquement parce que sinon, il aurait été viré de la sélection.
La démarche de Menotti pour refaire cette équipe d'Argentine championne du monde de 78 est vachement intéressante parce qu'il ne prend que des joueurs argentins qui jouent, sauf Mario Kempes qui joue à Valence.
Oui.
Tous les autres Argentins qui étaient expatriés en Europe, il ne les prend pas. Et il travaille comme... le terme est mal choisi, sous un régime militaire.
Mais en Angleterre ?
Non, il n'était pas. Non, il vient après. Et il travaille avec ce groupe-là pour les amener au titre de champion du monde. Alors, Commando, donc le titre est mal choisi, mais il fait vraiment un groupe avec cet objectif précis. Il prend des joueurs très jeunes en général. Mais, et footballistiquement, c'était une belle équipe.
Mais alors, les clubs, autant l'équipe d'Argentine était faible dans les compétitions précédentes, en tous les cas, elle n'avait jamais passé. Mais les clubs argentins étaient au top de leur apogée. Les clubs argentins dominaient l'Amérique du Sud et c'était des grands clubs avec des forces.
Évidemment,
l'Independiente notamment.
Et il ne prend pas Maradona.
Il prend, mais il le prend pas parce qu'il est très jeune encore.
Bah d'ailleurs, Kempes, il y a une série qui retrace la vie de Maradona sur Amazon Prime. Il y a cet épisode où en fait Kempes il prend Maradona de haut en disant toi tu te prends déjà pour la star là, reste où tu es. Tu prends encore à la Coupe du Monde et tout. Et comme par hasard derrière Maradona il y est pas et donc il dit Kempes en gros il a œuvré contre moi.
Parce que Mario Kempes c'était une vraie star. Hein.
Ah c'était un joueur exceptionnel.
En plus, il avait l'allure et tout. C'était un formidable
joueur. Et en 82 les deux sont côte à côte, Maradona et Kempes, et l'Argentine se fait éliminer au deuxième tour. Ça, ils se marchent sur les pieds.
Dans quelques instants, les de retour. Tiens, et Xavier, je vous ai dit que c'était une bip sur page.
Ah oui. Bon.
Il va vous expliquer pourquoi on marque de plus en plus contre son camp en Coupe du Monde.
Ah, ça m'intéresse.
Ce sera dans quelques instants dans l'After. À tout de suite.